Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Aujourd'hui, nous allons commencer à regarder le premier livre des rois. Alors, ce qu'on va faire, comme on le fait d'habitude, on va regarder d'abord quelques éléments, comme l'arrière-plan, le but principal du livre, son plan, les thèmes majeurs, et les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu de cette époque-là et les leçons pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et on va regarder aussi la place et la présence de la personne de Jésus-Christ à l'intérieur du livre de Un Roi. Alors, on va commencer par regarder l'arrière-plan. Alors, d'abord l'auteur. Alors, la tradition juive l'attribue au prophète Jérémie. Il compila probablement son histoire en puisant à plusieurs sources, notamment le livre des Actes de Salomon, comme on voit au verset 41 du chapitre 11, le livre des Chroniques des rois d'Israël, on peut voir cette information-là au verset 19 du chapitre 14, et aussi le livre des Chroniques des rois de Juda. On voit aussi cette expression-là au verset 29 du chapitre 14. Donc, le livre des chroniques des rois d'Israël, le livre des chroniques des rois de Juda, et aussi le livre des actes de Salomon. Alors, ces livres semblent avoir été des registres publics, probablement composés par différents prophètes au fil des années. Sous l'inspiration divine, l'auteur du livre des rois fit son choix parmi ces documents. On admet généralement que l'essentiel du livre fut achevé avant l'exil et que Deux rois, chapitre 25, fut ajouté pendant la captivité. Maintenant, on peut regarder un petit peu la date de la composition du livre. Comme les deux livres de Samuel, les deux livres de rois ne formaient qu'un seul à l'origine. À eux deux, ils couvrent la période de l'histoire d'Israël qui s'étend de l'accession de Salomon au trône vers 970 avant Jésus-Christ jusqu'à l'exil final des habitants de Juda à Babylone, donc 586 avant Jésus-Christ. Donc, on va regarder la période historique et le cadre de l'ensemble du livre. Alors, un roi couvre une période de 120 ans, commençant avec le règne de Salomon, en 971 avant Jésus-Christ, jusqu'au règne d'Akasia, en 851 avant Jésus-Christ. La date clé est 931 avant Jésus-Christ, où le royaume fut divisé entre la maison du nord, qui était Israël, et la maison du sud, qui est Juda. Le but principal du livre, comme deuxième point, alors le livre de Un Roi est clairement divisé en deux parties. Le Royaume-Uni sous Salomon, chapitre 1 à 11, et le Royaume divisé, chapitre 12 à 22. Un Roi prévoit à une évaluation prophétiquement orientée des causes morales et spirituelles qui conduisirent à la division économique et politique des deux royaumes. Le matériel contenu dans le livre est trop sélectif pour constituer des biographies des rois. Par exemple, Omri fut l'un des plus importants rois pour le royaume du Nord du point de vue politique, mais à cause de sa corruption morale, ses accomplissements sont racontés en seulement 8 versets, les versets 21 à 28 du chapitre 16. La vie de ces rois est utilisée pour enseigner que la fidélité à l'Alliance et l'obéissance aux lois de Dieu entraînent toujours des bénédictions, mais aussi que l'apostasie amène des jugements divins. Alors, la première partie du livre, qui va du chapitre 1 au chapitre 11, raconte la splendeur et la gloire du début du règne de Salomon. À plusieurs égards, le roi Salomon peut être un type de Jésus-Christ. Sa légendaire sagesse pointe certainement vers celle de Jésus-Christ. Alors, on voit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » La renommée, la gloire, la richesse et l'honneur de Salomon préfigurent Christ dans son royaume. Le règne de Salomon amène la connaissance, la paix et l'adoration. Cependant, en dépit de la splendeur du règne de Salomon, le Fils de l'homme va affirmer, par exemple, au verset 42 de Matthieu 12, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Alors, beaucoup d'emphase est mise dans les livres des rois sur les ministères prophétiques d'Élie et aussi d'Élisée. Alors, si on regarde le plan du livre comme troisième point, on va d'abord regarder un plan qu'on pourrait appeler succinct, un plan résumé. Alors, on pourrait dire que le thème du plan succinct est que le schisme est causé à cause de la désobéissance. Alors, on peut diviser le plan, le livre en deux parties. La première partie, c'est le grand règne de 40 ans de Salomon, qui va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Alors, à l'intérieur de cette partie-là, on voit l'accession au trône de Salomon et ses premières actions, dans les chapitres 1 à 4. On voit également la construction du temple et du palais, des chapitres 5 à 8. On voit aussi l'apogée de sa renommée et de sa gloire, les chapitres 9 et 10. Et on voit dans le chapitre 11 le déclin de Salomon et son décès. Dans la deuxième partie, on a les premiers 80 premières années des deux royaumes, donc le royaume du Nord qui est Israël, le royaume du Sud qui est Juda. Ça va du chapitre 12 aller jusqu'au chapitre 22. Donc, on a à l'intérieur de cette section-là l'accession de Roboam au pouvoir, et ce qui cause un schisme dans le chapitre 12. On voit aussi les rois de Juda qui vont de Roboam jusqu'à Josaphat. Et à l'intérieur de ça, on a les chapitres 13 à 22. Et on a aussi les rois d'Israël qui vont de Jéroboam jusqu'à Akazia. Alors, ça couvre vraiment la même partie, les chapitres 13 à 22. Alors, si on veut regarder, j'ai mis aussi à l'intérieur de ceux qui ont les notes, un plan un peu plus détaillé, celui qui est tiré du livre de Garrett Crossley, qui vraiment explique l'Ancien Testament assez en détail, mais de façon quand même assez résumée. Alors, on voit à l'intérieur de ça qu'il y a la naissance et la chute du royaume d'Israël comme première partie. Donc, il y a l'affermissement du royaume, qui va du chapitre 1-1 aller jusqu'à 2-46, et cette section-là comprend la mort de David et Salomon qui monte sur le trône. Et ensuite, on a Salomon qui exécute ses ennemis. Donc, dans le deuxième chapitre de un roi. Ensuite, on a une autre section qui va décrire la gloire du royaume de Salomon, qui sont dans le fond les 10 premiers, du chapitre 3 au chapitre 10. Alors, à l'intérieur de cette section-là, on voit les différents éléments, comme le mariage de Salomon, la prière de Salomon, la sagesse de Salomon. Ça, on voit toutes ces trois choses-là à l'intérieur du chapitre 3. Dans le chapitre 4, on nous parle de la grandeur de Salomon. Et dans les chapitres 5 à 7, on parle de la construction du temple par Salomon. Et dans le chapitre 8, on a la dédicace du temple. Et dans le chapitre 9, on a la deuxième apparition de Dieu à Salomon. Et on a la description de la renommée de Salomon. Et aussi de la visite de la reine de Séba, qu'on voit dans le chapitre 10, versets 1 à 13. Et on parle aussi de la richesse extraordinaire de Salomon dans les versets 14 à 29 du chapitre 10. Ensuite, on arrive dans la troisième partie, qui est vraiment le schisme, donc la division qui va avoir lieu du royaume, qui va du chapitre 11, verset 1, jusqu'au chapitre 12, verset 24. Donc, on voit qu'à l'intérieur de cette partie-là, il y a un relâchement spirituel de la part de Salomon et également la description de sa mort. Ensuite, on a Roboam qui monte sur le trône et on parle de son entêtement. Et on a aussi la description de Jéroboam qui devient roi des 10 tribus d'Israël, donc du Nord, des rois du Nord. Ensuite, comme deuxième partie, on a vraiment la naissance et la chute du royaume d'Israël. Donc, on a la séparation des royaumes d'Israël avec celui de Juda. Donc Juda, ça va comprendre deux tribus, les deux tribus du sud. Donc Juda avec Roboam qui est un mauvais roi, Abijam qui est aussi un mauvais roi et Asa quant à lui qui va être un bon roi pour Juda et aussi Josaphat qui va être un bon roi. Donc pour les tribus de Juda, les tribus du sud, deux rois mauvais, deux rois bons. Pour Israël, donc celui qu'on appelle le royaume du Nord, ça va être appelé maintenant Israël. On a Jéroboam qui est un mauvais roi, Nadab qui est un mauvais roi, Baïcha qui est un mauvais roi, Éla qui est un mauvais roi, Zimri qui est un mauvais roi, Omri qui est un mauvais roi, Akab qui est un mauvais roi et Akazia qui est un mauvais roi. Donc, à l'intérieur de cela, on voit la division du royaume entre Juda et Israël. Juda, la moitié de leurs rois sont bons, l'autre moitié est mauvaise, tandis que tous les rois d'Israël, sans exception, sont mauvais. Alors, il y a une stabilité du côté des rois de Juda, qui ont des règnes plus longs, et il y a le ratio des rois méchants versus bons pour le côté de Juda, c'est 50%. Tandis que du côté d'Israël, c'est 100% mauvais. Quatrième chose dont on va regarder, c'est les thèmes majeurs qu'il y a à l'intérieur du livre. Alors, on peut décrire le premier livre des rois comme la naissance et la chute de la nation d'Israël. La première moitié du livre relate les événements importants survenu au cours des 40 ans de règne du roi Salomon, fils de David et de Bathsheba. La seconde moitié rapporte une histoire succincte du royaume divisé entre Israël, qui est le royaume du Nord qui regroupe 10 tribus, et Juda, qui est le royaume du Sud avec deux tribus, celle de Juda et celle de Benjamin. Le livre est écrit pour indiquer les causes de la fondation et du déclin du royaume. Tant qu'il était loyal à Dieu seul, par exemple, quand il tenait compte de Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », lorsque Salomon tenait compte de ce commandement de Dieu-là, Israël a été prospère. À partir du moment où les Israélites se détournèrent de l'Éternel, de son alliance et de sa loi qui avait été donnée par l'entremise de Moïse, leur moralité déclina et le royaume s'affaiblit. L'Éternel est le maître souverain qui est assis sur son trône. Il bénit l'obéissance, punit la désobéissance et il pardonne aussi à celui qui se repent. Comme cinquième point, on va regarder brièvement les personnages clés du livre de Un roi. Bien entendu, il y a la personne du roi Salomon. Alors, il était le fils de David et de Bathsheba. Il hérita du trône et construisit le temple à Jérusalem. Il reçut une grande sagesse comme don du Seigneur. Et il amena la paix, la prospérité et l'unité à Israël tant qu'il fut fidèle au Seigneur. Son amour immodéré des femmes l'entraîna dans l'idolâtrie. Cela eut des conséquences graves pour le royaume. Dieu le jugea et divisa la nation en deux royaumes. Alors, on a aussi le personnage de Roboam. Alors, Roboam était le fils de Salomon. Son ambition et son manque de sagesse provoqua la division de la maison, de la nation, c'est-à-dire en deux royaumes. Alors, on a aussi le personnage de Jéroboam. Alors, il était un officier de l'administration de Salomon. Et il rejeta le leadership de Roboam et contribua à la division de la nation. Il devint le roi du royaume du Nord, donc il comprenait les 10 tribus qui formaient maintenant le nouvel Israël. Et il s'est égaré en adorant d'autres dieux. On a aussi le personnage de Élie. Élie, c'est très certainement l'un des grands prophètes. On l'appelait le Tishbite de Galaad. Il portait un vêtement de peau ou fait d'une étoffe de poil de chameau, sorte de pagne retenue sur ses reins par une ceinture de cuir. Quand Achab, sous l'influence de Jézabel, son épouse Tyrienne, fut devenu un adorateur de Baal, Élie paraît tout à coup. Il se présente devant le souverain perverti, lui annonce une sécheresse de durée indéterminée qui est un châtiment de l'apostasie. La famine sévit. Élie se retire d'abord près du torrent de Kérit où des corbeaux envoyés par l'Éternel le nourrissent. Lorsque le Kérit est à sec, Élie se rend à Sarepta. Il y a là une veuve qui met sa confiance en l'Éternel et partage sa dernière galette avec Élie. Alors Dieu intervient. La jarre de farine et la cruche d'huile ne s'épuisent pas avant que la farine ait pris fin. Le fils de la veuve meurt. La prière du prophète le ramène à la vie. Longtemps après, la troisième année, Élie reçoit de l'Éternel l'ordre de se présenter devant Achab. Il s'ensuit la scène du Carmel. Les prêtres païens essaient de prouver la divinité de Baal, mais en vain. Élie rassemble le peuple autour d'un ancien autel élevé à l'Éternel, car à cause de la défection des 10 tribus, il ne pouvait plus aller à Jérusalem. Cet autel avait été renversé. Élie, en le rétablissant avec 12 pierres, atteste silencieusement que le schisme des 12 tribus en deux royaumes est contraire à la volonté de Dieu. Pour empêcher toute fraude, il ordonne au peuple de verser de l'eau sur l'Holocauste et sur l'autel. L'Éternel a manifesté ainsi son existence et sa puissance. Les prophètes de Baal, convaincus d'imposture, sont amenés au Coran de Kizon, au pied de la montagne. Élie ordonne de les égorger. Le peuple a reconnu que l'Éternel est Dieu et a obéi au commandement de son prophète. Les nuages se rassemblent annonçant la pluie et le retour de la faveur divine. Le prophète, pour honorer le souverain du peuple élu de Dieu, s'insère et court devant le char d'Akab jusqu'à la porte de Jizréel. Jézabel, furieuse de la mort de ses prophètes, jure la mort d'Élie, qui s'enfuit à la montagne d'Horeb. Comme Moïse, il est divinement nourri pendant 40 jours et 40 nuits. Et avec un déploiement extraordinaire de puissance et de douceur, Élie est blâmé, puis rappelé à son devoir. Dieu lui ordonne d'oindre Hazaël, roi de Syrie, et Jéhu, roi d'Israël, pour qu'il châtie l'idolâtrie d'Israël. Élie doit aussi oindre Élisée, prophète à sa place, pour annoncer le jugement. Élie jette son manteau sur Élisée, lui adresse une vocation et le charge d'exécuter le reste de sa mission. Comme sixième point, on va regarder quelques versets clés. 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 13. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » On a un autre verset clé dans 1 Roi, chapitre 9, versets 1 à 5. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » On a aussi un autre et dernier passage, il y en aurait d'autres, mais le 1 Roi, chapitre 11, verset 31 et verset 36. Et dit à Jéroboam, « Prends-toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. » Verset 36, « Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. » 7e chose qu'on va regarder, donc les leçons pour le peuple de Dieu d'alors, de l'époque, de cette époque-là. Alors le livre de 1 Roi démontre la fidélité de Dieu à ses promesses. La fidélité de Dieu a deux aspects. Le côté positif, en ce sens qu'il bénit toujours l'obéissance de son peuple, et le côté négatif, en ce sens qu'il punit aussi toujours la désobéissance et l'infidélité du peuple. Admirons la bonté de Dieu, qui, même s'il punit son peuple pour sa rébellion, il continue d'offrir de l'espoir et fait des promesses pour nous assurer que la rédemption de son peuple s'accomplira. Donc, on parle des leçons pour le peuple d'alors. On va parler aussi des leçons pour le peuple d'aujourd'hui. Le livre nous rappelle que nous devons demeurer fidèles à sa volonté et obéir. Nous devons apprendre à lui faire confiance, ce qui est un grand défi pour nous. Cette confiance doit être constante en toutes choses et dans toutes les circonstances. La confiance se développe avec le temps, requiert des efforts et se doit d'être pratiquée quotidiennement. Aucun aspect de nos vies ne doit être soustrait à cette confiance. Maintenant, le dernier point, le huitième point, la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre d'un roi. Dieu avait promis à David qu'il aurait continuellement un de ses descendants sur le trône d'Israël. C'est cette promesse qui constitue la base historique et théologique de la venue du Messie, celui qui unifierait son peuple, les rachèterait et les réconcilierait avec Dieu. La promesse a été accomplie en Jésus, le Messie. Trois applications de l'étude très rapide de ce livre, de cette introduction. La première, prions l'Éternel de toujours lire les Écritures de l'Ancien Testament avec profit, à la fois pour nous servir d'exemple et à la fois pour notre instruction. Deuxième application, méditons davantage lors de nos lectures. Toutes les histoires et tous les personnages ont des choses à enseigner, des choses à imiter ou des choses à éviter à tout prix. Troisième application, adorons notre grand et glorieux Seigneur qui demeure fidèle malgré nos manquements, malgré nos faiblesses et malgré nos chutes. Que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit béni, adoré et glorifié éternellement. Amen.